Vous écoutez On lit pour vous.
En as-tu vraiment besoin, parenthèse, de sous-marin? C'est une chronique signée Alexandre Sirois, publiée dans la presse du 10 juillet 2026. Quel revirement tout de même! Il n'y a pas si longtemps, notre pays était un cancre pour ce qui est des dépenses militaires. Et voici que le premier ministre Mark Carney, qui est en train de les faire bondir, vient d'annoncer le plus important contrat d'approvisionnement militaire de l'histoire du pays. Le Canada va donc acheter jusqu'à 12 sous-marins au consortium ThyssenKrupp Marine Systems pour un coût estimé à quelque 24 milliards de dollars. Si on ajoute les sommes liées à l'exploitation et à l'entretien, le montant qu'on évoque généralement se situe autour de 80 milliards de dollars. C'est colossal. Je vous épargne la liste de tout ce qu'on pourrait faire d'autre avec cette somme pour entrer tout de suite dans le vif du sujet. A-t-on vraiment besoin de ces sous-marins? Je sais qu'il y a plusieurs bonnes raisons de cesser de nous traîner les pieds en matière de défense. Notre monde, où l'on doit composer avec le retour du nationalisme des grandes puissances, est de plus en plus brutal. Les États-Unis sont maintenant aussi fiables comme alliés qu'un kleptomane laissé seul dans un magasin de bijoux. Donald Trump nous presse de faire grimper nos dépenses militaires en rêvant tout haut de faire de notre pays un des États qu'il dirige. Mais je souhaitais savoir de façon précise en quoi ces coûteux sous-marins peuvent être si utiles. J'ai obtenu un premier élément de réponse lors d'une discussion avec un contre-admiral à la retraite, Gilles Couturier, ancien commandant adjoint de la Marine royale canadienne. Il m'a raconté l'essentiel d'un scénario de simulation utilisé dans un contexte maritime dans plusieurs écoles militaires. Des soldats, guillemets, les bleus, fin des guillemets, doivent transporter des troupes et de l'approvisionnement entre un point A et un point B sur l'eau, guillemets, dans un espace étroit, fin des guillemets. Or, on leur apprend que les rivaux, guillemets, les rouges, fin des guillemets, possèdent un sous-marin. Tout à coup, l'opération devient beaucoup plus complexe pour les bleus. Citation, « Là, il faut que tu le trouves, le sous-marin, et il y a beaucoup de ressources impliquées pour le trouver », explique-t-il. C'est l'ultime outil tactique dans un contexte de transport de marchandises dans des détroits ou des endroits serrés. Il peut rester au fond de l'eau, attendre jusqu'à ce qu'il entende le bruit du navire marchand, puis décider de monter et de tirer sa torpille. Et mission accomplie. Fin de citation. En somme, un sous-marin est une arme létale à la fois redoutable et dissuasive. Un avantage indéniable pour un pays comme le nôtre qui doit assurer la sécurité de trois océans et participer à des opérations militaires avec des alliés, à commencer par les membres de l'OTAN. Le rôle qu'on peut y jouer serait renforcé. Citation, un sous-marin, c'est une plateforme offensive, armée, furtive et très difficile à détecter. Fin de citation, renchérit Gaëlle Rivard-Piché, directrice générale de l'Institut de la Conférence des associations de la défense. D'où son utilité lorsqu'il s'agit de défendre nos intérêts ici ou ailleurs. Citation, il peut voir l'adversaire et l'abattre avant que l'adversaire sache qu'il a été détecté. Fin de citation. Celle qui a été analyste pendant près de 10 ans au ministère de la Défense m'a aussi expliqué pourquoi l'achat de 12 sous-marins se justifie. Citation, pour ne pas mettre trop de pression sur les équipages et sur les plateformes. Fin de citation. L'idéal est d'en avoir au maximum 1 sur 4 en déploiement, les autres étant à l'entretien ou utilisés pour l'entraînement et la formation. Si bien qu'avec sa nouvelle flotte, le Canada pourrait déployer en tout temps trois sous-marins, soit un pour protéger chacun des océans qui bordent le pays. Et pourquoi cette surveillance est-elle si importante? Les explications des deux experts à ce sujet m'ont aussi aidé à comprendre en quoi l'acquisition de ces sous-marins est un précieux atout. Citation: dans un contexte de tension, on veut savoir ce qui se passe dans les airs et ce qui se passe au-dessus de l'eau. Et avec ça, on se débrouille quand même assez bien. Il y a les avions, il y a les radars, etc., dit Gilles Couturier. Mais sous l'eau, c'est beaucoup plus difficile. Fin de citation. Et rien n'est plus efficace pour y parvenir qu'utiliser ses propres sous-marins, affirme le contre-amiral à la retraite. Citation. Et ce qu'on a tendance à dire quand on parle de sous-marins, c'est qu'il y en a toujours un au large des côtes de l'Amérique du Nord, signale-t-il. Un des nôtres ou celui de quelqu'un d'autre. Et entre vous et moi, les Russes viennent souvent faire un tour. Fin de citation. Désormais, en matière de sécurité nationale, la Chine fait aussi partie de l'équation. Elle mène régulièrement des opérations de recherche dans l'océan Arctique, rapporte Gaël Rivard-Pichet, y compris dans la mer de Beaufort, notamment pour y cartographier les fonds marins. On sait aussi que l'armée canadienne, il y a quelques années, a retrouvé des bouées de surveillance chinoises dans l'Arctique. Citation: si on ne se positionne pas avec nos propres capacités, on est donc à risque de voir la Chine développer un bastion de notre cour arrière pour opérer des sous-marins conventionnels et potentiellement nucléaires. Fin de citation. Gaël Rivard-Pichet. À toute cette tâche, s'en ajoutent d'autres. Dur à détecter, un sous-marin peut aussi servir à la collecte de renseignements. Il serait aussi possible de l'utiliser pour évacuer certaines personnes, citation, d'un pays où on n'est pas les bienvenus, dit Gilles Couturier. Ultime question, n'avons-nous pas déjà des sous-marins qui peuvent faire tout ça? Vous connaissez peut-être déjà la réponse. On a acheté 4 sous-marins usagés au gouvernement britannique en 1998 et on s'est carrément magasiné des problèmes. Même s'ils n'ont pas atteint leur date de péremption officielle, soit 2030, ils sont obsolètes. D'ailleurs, un seul peut encore servir lors d'opérations militaires, souligne Gaël Rivard-Pichet. Citation: on doit rapidement acquérir une nouvelle flotte de sous-marins pour répondre à nos besoins opérationnels et nos besoins géostratégiques, résume-t-elle, fin de citation. Dans les circonstances actuelles, c'est un constat qui me semble bien difficile à contredire. Fin de cette chronique d'Alexandre Sirois titrée « En as-tu vraiment besoin de sous-marins? » publiée dans la presse du 10 juillet 2026.
Debout dans le vacarme, une chronique de Dominique Lemieux, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Il arrive que des livres ne cherchent pas à rassurer, à nous prendre par la main. Ils font partie de cette catégorie qui nous regarde droit dans les yeux, nous toise, nous confronte. Comment continuer à trouver du sens quand notre monde s'effrite? La sélection naturelle, le plus récent roman de Patrick Nicole, appartient à cette famille de textes inconfortables, nécessaires. Après plus d'une dizaine de publications, Nicole poursuit, toujours avec cette constance admirable, une œuvre cohérente qui se renouvelle pourtant chaque fois, un autre sillon creusé autour de l'absurdité de l'existence, de l'impuissance, du décalage entre l'individu et le grand mouvement des choses. Christian, professeur fraîchement retraité, se tient au centre de ce roman comme un homme égaré. 30 ans à enseigner la géographie, puis soudain, plus rien. La retraite comme une cassure. Lors d'un cours censé préparer à cette transition, il constate avec une clarté désarmante que quelque chose en lui était brisé. ce quelque chose ne se réparera pas. Pendant que Christian se défait lentement, Carmen, sa conjointe depuis plus de 30 ans, continue de s'épanouir dans son travail au musée. Deux trajectoires parallèles qui ne se rejoignent plus tout à fait. Lui craint de devenir le vieillard endormi au pied du manège, spectateur hagard d'un univers qui lui échappe. Les désirs s'étiolent, l'alcool devient refuge, anesthésie, complice. Puis survient la scène charnière. Un souper chez Sylvain et Simone, une collègue de Carmen. Les opinions rapides de Sylvain, les jugements lourds, les commentaires déplacés. L'alcool aidant, la colère déborde. Christian n'argumente pas, il explose. Après un geste impulsif, il fuit, persuadé d'avoir commis l'irréparable. Il n'y aura plus de retour possible. La cavale qui suit le propulse au cœur d'un groupe d'activistes clandestins. Une ancienne étudiante croisée par hasard, un appartement où se terrait puis l'engrenage, cellule organisée, entraînement en forêt, cible identifiée. Des riches propriétaires, des milliardaires, ses pires ennemis du genre humain. On parle de justice, on prépare la violence. Faire peur, faire taire. Nicole ne romantise rien. Les motivations se brouillent, les discours se fissurent, l'idéalisme se fane. Il y a toujours quelque chose de plus important que l'environnement, entend-on. L'immigration, la nation, l'inflation. Sans peur, sans assassinat, il ne se passera rien. Le roman avance ainsi, sans issue heureuse, dans une société où la violence devient norme, où la colère devient langage. Pendant ce temps, Carmen envoie des messages, des phrases suspendues sur Messenger, une communication à sens unique. Elle espère, attend, se heurte au silence. Cette absence d'interaction résonne comme un écho intime à l'effondrement collectif. La sélection naturelle est un roman dur, un roman de notre quotidien inquiet, où le savoir ne protège pas, où la lucidité ne sauve pas, où le bien et le mal se confondent dans une grande, très grande fatigue. En dialogue. Impossible, en refermant ce livre, de ne pas penser à d'autres lectures récentes et aimées qui explorent, elles aussi, ces fractures. Dans Escar, Jonathan Hope, dont j'avais parlé en bien de son précédent roman « Ce lac », nous entraîne sur les routes d'une Abitibi meurtrie, ravagée par l'industrie minière, où le territoire est blessé à même sa chair. Là aussi, le langage se fissure, la matière résiste, le réel devient presque irréel. Tout se désarticule dans un bruit sourd d'explosion et de poussière. À sa manière, « L'amour et la fête » de Jules Clara capte aussi un point de saturation de notre époque. Le roman prend appui sur le chaos bien réel des bureaux de Passeport Canada à l'été 2022. Une femme tente de renouveler son passeport avant un voyage prévu, échoue, puis décide de partir quand même ailleurs, sans plan, entraînée par l'élan plus que par la logique. Ce déplacement improvisé devient le lieu d'une dérive physique et mentale. Ce qui se défait, peu à peu, dépasse la simple mésaventure administrative. C'est le couple, la projection dans l'avenir, la capacité de croire que les choses vont suivre leur cours. Jules Clara observe finement cette fatigue diffuse, saisit un état, une tension, un malaise partagé. À une autre extrémité du spectre, précis de fantomologie, de Julie Hyland, s'attarde moins au déraillement de l'actualité qu'aux persistances souterraines du passé. Le roman explore ce qui se transmet malgré nous. Des gestes, des peurs, des silences, un lien au territoire, l'Abitibi une fois de plus. En s'appuyant sur les carnets de son grand-père orpailleur, Wilfrid William Hyland, et sur les répercussions de cette vie d'errance sur les générations suivantes, Julie Hyland compose un récit où la filiation s'inscrit dans les corps et les paysages. La nature n'y sert pas de décor, elle est mémoire active, dépositaire des traces laissées par les ambitions humaines, extraction, déplacement, abandon. Ce qui hante dans ce livre n'a rien de spectaculaire. Il s'agit plutôt de ce qui demeure non réglé, de ce qui continue d'agir longtemps après les faits. Précis de fantomologie, interroge avec finesse notre rapport à l'héritage, familial et territorial, et pose une question exigeante. Que faisons-nous de ce qui nous constitue ? Lorsque le passé insiste et refuse de se taire. Ces livres, chacun à leur manière, se méfient des réponses simples. Ils témoignent d'un présent en déséquilibre, chargé de trop de poids. Ils ne promettent pas la joie ni la réparation. Ils nous obligent toutefois à rester éveillés, debout, dans le vacarme. C'était « Debout dans le vacarme », une chronique de Dominique Lemieux, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
L'attente de George Washington. Un texte d'Yves Boisvert, paru le 4 juillet 2026 dans la presse. Le 15 août 1906, une manchette intrigante apparaît dans un entrefilet du Philadelphia Evening Bulletin. Des reliques sacrées en vente pour une œuvre de bienfaisance, la fille du général Robert E. Lee met en vente deux tentes ayant appartenu à George Washington. Mary Custis Lee voulait amasser 10 000 $ afin de financer une maison de retraite pour les veuves des officiers de l'armée confédérée. On a eu beau les qualifier de sacrés, ces objets encombrants n'ont pas trouvé preneur. Il a fallu attendre 3 ans pour qu'un pasteur, Herbert Burke, achète pour 5 000 $ la tente où Washington dormait auprès de ses troupes et réunissait son état-major. Et encore, en échelonnant les paiements sur 5 ans. Le père Burke voulait construire un musée de l'histoire américaine. Le projet a vivoté, mais la tente a survécu. Un siècle plus tard, elle est exposée au musée de la Révolution américaine à Philadelphie. Quand j'y étais au printemps 2026, c'est avec un immense « Oh !» que les écoliers de 10 à 12 ans ont assisté au dévoilement de la tente qui survient après chaque projection d'un court documentaire. La mise en scène est parfaite. La tente de 250 ans, en tissu d'Égypte, apparaît en clair-obscur comme si le général Washington allait en sortir. L'itinéraire de l'objet, lui, est une sorte de condensé de l'histoire américaine et du mythe entourant Washington. Pour l'historien Scott Stephenson, directeur du musée, cette tente symbolise le sacrifice physique de Washington, alors un des hommes les plus riches de Virginie. Il possédait avec sa femme Martha un imposant domaine à Mount Vernon, était propriétaire de plus de 300 esclaves et spéculait lourdement sur les terres indiennes. Car, avant même d'être une révolte fiscale ou une lutte contre la tyrannie britannique, la guerre d'indépendance était motivée au départ par la volonté d'étendre les possessions des colons en territoire autochtone, ce que Londres interdisait. Or, pendant les 8 ans qu'a duré la guerre d'indépendance, 1775-1783, Washington est resté presque en permanence avec ses troupes, même au plus creux du conflit et des privations. Il faut savoir que les révolutionnaires, qui commençaient à peine à se nommer Américains, ont perdu la plupart de leurs combats. C'est une guerre d'usure que cette armée déterminée, mais mal équipée, mal entraînée, a finalement gagnée en grande partie grâce à l'appui de la France. Washington a assis son autorité morale en restant avec ses troupes tout le long, raconte M. Stephenson. Comme dans l'hiver terrible à Valley Forge, 1777-1778, où 2000 soldats sont morts de maladie et de malnutrition. C'est en soi un tour de force d'avoir maintenu cette armée à travers les défaites. Dans son célèbre discours de démission comme général, en 1783, Washington vante cette improbable armée unie sous son commandement. Qui, sans l'avoir vécu, aurait pu imaginer que ces hommes venus de divers endroits du continent et fortement enclins à se mépriser et à se quereller entre eux, deviendraient immédiatement des frères d'armes? Après la mort de Washington, la tente, avec d'autres reliques, s'est retrouvé entre les mains de sa famille, lui-même n'a pas eu d'enfants biologiques, mais a élevé ceux de Martha et leurs petits-enfants. Or, une des arrière-petites-filles de Martha Washington a épousé un certain Robert E. Lee. Les objets sacrés du père de la nation se sont donc retrouvés entre les mains du général à la tête de l'armée sudiste qui voulait faire sécession de la République. Lee habitait dans un domaine à Arlington, en Virginie, tout juste en face de la capitale américaine. Au déclenchement de la guerre civile, il doit l'évacuer d'urgence avant que les troupes de l'Union ne viennent l'occuper. Seule demeure Célina Gray, la bonne, esclave des Lee. Voyant que les soldats commencent à piller le domaine, elle informe le général nordiste de la présence de reliques de Washington cachées et sous clé. C'est ainsi que la tente est transférée, en 1863, au bureau des brevets à Washington, où elle a été fièrement exposée comme un butin de guerre dérobé aux sécessionnistes. La guerre prend fin en 1865. La tente est repliée, entreposée. La famille Lee se rend jusqu'en Cour suprême pour récupérer son domaine. Pour 150 000 $, le gouvernement fédéral prend néanmoins possession du terrain pour en faire le fameux cimetière national d'Arlington. La tente? Elle est dans les voûtes des musées nationaux, Smithsonian. C'est finalement le président William McKinley qui ordonne de la redonner à la fille du général Lee en 1901. Voilà comment la demeure de soldats de Washington a servi à financer la retraite des veuves d'une guerre menée pour maintenir l'esclavage. L'ironie n'est pas si grande. Pendant la guerre de Sécession, 1861-1865, tant le Nord que le Sud revendiquent la figure de Washington. Pour le Nord, Washington est l'humaniste qui s'est battu pour les idéaux de liberté et qui a affranchi les Afro-Américains qu'il détenait en esclavage dans son testament, mais pas ceux de Martha. Pour le Sud, Washington prouvait que l'on pouvait être un homme admirable, vertueux, tout en étant propriétaire d'êtres humains. Dans un ouvrage fascinant, l'historien François Furstenberg, professeur à Johns Hopkins, montre comment on a construit le mythe de George Washington et comment on l'a entretenu tout de suite après sa mort. Washington était le ciment nationaliste qui a uni un nouveau pays autrement très divisé, fragile, pendant tout son premier siècle d'existence. Une division qui a culminé avec la guerre civile, mais qui connaît des répercussions encore aujourd'hui. Dans les éloges funèbres de Washington, reproduits dans les journaux, puis dans les livres d'école et dans sa première biographie largement romancée, Washington est érigé en monument de sagesse. Encore aujourd'hui, les Américains apprennent l'histoire du cerisier de Washington, considéré comme une pure fable par les historiens. Selon cette histoire, Washington, à 5 ans, aurait abattu un cerisier. Alors que son père allait punir un de ses esclaves soupçonné du méfait, le jeune George a reconnu sa culpabilité. « Il n'était pas capable de mentir », écrit Mason Locke Weems, peut-être l'homme qui a le plus fait pour fonder le mythe du demi-dieu, un Moïse libérant le peuple américain des Anglais. Washington est très vite célébré, moins pour ses batailles comme général ou ses grandes réalisations comme président, que pour sa modération dans l'exercice du pouvoir et sa décision de ne pas s'accrocher à ses fonctions. On a davantage retenu ses discours d'adieu qui le distinguent des figures tyranniques du passé. Il était un César sans la dictature. Nul doute que son départ volontaire après 2 mandats a créé une tradition proprement révolutionnaire de transfert pacifique du pouvoir. Et un peu comme la Déclaration d'indépendance, universellement révérée à droite comme à gauche, la figure mythifiée de Washington est utilisée par toutes les factions politiques. Comment raconter l'histoire sous une présidence qui retire des panneaux relatant des moments sombres du pays? Il faut peut-être commencer par constater que l'histoire, partout, a toujours été un terrain miné politiquement. Il n'y a jamais eu de moment uni aux États-Unis. Scott Stevenson ne s'aventure pas sur le terrain politique en ce demi-quincentenaire. La majorité des gens acceptent l'idée que l'histoire américaine comprend des réalisations incroyables et des erreurs terribles qu'ils doivent être enseignés et dont on doit tirer des leçons. C'est un message assez simple, en fait. Son musée veut plutôt mettre l'accent sur les interrogations que donner des réponses. Il y avait plusieurs perspectives à l'époque de la Révolution aussi. On estime en effet qu'un tiers des Américains étaient pour l'indépendance, un tiers était loyaliste et un tiers indifférent ou entre les deux. L'histoire n'est pas une vérité que vous excavez et que vous exposez. C'est un dialogue avec le passé. Ça dépend donc des questions que vous posez. Qui, par exemple, sait qu'en 1776, la Constitution du New Jersey donnait le droit de vote aux femmes et aux Noirs libres jusqu'à ce qu'on l'amende en 1807? Il ne faut pas craindre les côtés sombres, mais en préservant l'optimisme radical du moment. Dès que la Déclaration d'indépendance a été publiée, des Noirs et des Juifs y ont vu un outil pour la promotion de leurs droits. Ce n'était certainement pas la vision des signataires de la Déclaration, qui ne visait en réalité que les hommes blancs en proclamant que tous les hommes sont créés égaux. Washington ne pensait certainement pas aux esclaves de sa plantation en se battant pour ce texte. C'est tout de même dans ces mots que les abolitionnistes de Frederick Douglass à Abraham Lincoln ont puisé leur inspiration. Vous savez, personne à l'époque de l'adoption de la Constitution, 1787, ne pensait que c'était une œuvre achevée, observe Scott Stevenson. Ça commence d'ailleurs par ces mots « pour créer une union plus parfaite ». Le terrain idéologique est assez vaste pour que chacun y plante sa tente. C'était « La tente de George Washington », un texte d'Yves Boisvert, paru le 4 juillet 2026 dans « La Presse ».